reste.
Bonjour très chers auditeurs, Catherine naturopathe, sophrologue pour vous dans cette émission autour du bien-être et de la santé au naturel. Alors le sommaire de notre émission aujourd'hui, un dossier, je reçois Nathalie Houtman pour les enfants en difficulté. Marine, dans sa chronique, nous racontera la légende du maïs. Clément nous parlera de la fluorine, une très très jolie pierre. Et dans les trucs et astuces, quelques huiles essentielles pour les enfants. Vous avez deviné, notre émission d'aujourd'hui tourne autour des enfants. Et tout de suite, Margot pour sa chronique sportive, le sport et l'hyperactivité. Bonjour Margot.
Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle chronique sport. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intérêt du sport dans le trouble du déficit de l'attention ou hyperactivité, donc chez les enfants. On le sait, le sport a clairement des bénéfices sur l'activité du cerveau. Aujourd'hui, les médecins du Québec peuvent faire la prescription d'une activité physique aux enfants atteints de troubles de l'attention ou hyperactivité au-delà du simple conseil. De plus, une étude de l'Université du Michigan semble indiquer qu'il aide clairement à l'amélioration des symptômes de l'hyperactivité. Le sport va d'abord les aider à développer les habiletés sociales, la coordination, freiner l'impulsivité et améliorer leur concentration. Tous ceux-ci sont des bénéfices qui peuvent être apportés rien que par une activité sportive. Alors après, quel sport choisir pour mon enfant atteint d'hyperactivité? Comment faire? Il y a plusieurs études là-dessus qui peuvent vous aider à choisir. Donc une étude déjà publiée dans le journal des troubles de l'attention a évalué le comportement dans les sports de garçons de 12 ans avec et sans troubles du déficit de l'attention. Les garçons atteints d'hyperactivité ont montré plus d'agressivité, sont souvent plus disqualifiés et ont une réactivité émotionnelle plus élevée que les garçons non atteints d'hyperactivité. Donc c'est vrai que par rapport à cette étude, on dirigera plus souvent les enfants atteints d'hyperactivité vers des sports individuels et non des sports d'équipe. Mais pourtant, une autre étude menée par des chercheurs de Lewis Gay Clinic montre que lorsqu'ils sont correctement pris en charge, les enfants atteints d'hyperactivité peuvent effectivement participer à toute une variété d'activités sportives, y compris les sports d'équipe. S'ils sont bien entourés et bien accompagnés. Donc, on restera quand même à dire que les sports individuels restent les meilleures pratiques, en tout cas si le trouble d'hyperactivité n'est pas bien contrôlé. Les enfants avec atteinte d'hyperactivité se développent avec une attention individuelle et c'est pour cette raison que les sports individuels, par exemple comme la natation ou le tennis, seraient plus adaptés. Le plus important en tout cas, c'est bien sûr de considérer le tempérament de votre enfant avant tout dans le choix d'un sport. C'est vraiment essentiel pour qu'il puisse vivre une expérience positive. Donc quel que soit le choix de sport, en club ou non, individuel ou en équipe, il reste primordial de permettre aux enfants atteints d'hyperactivité de bouger et de faire du sport. Ne pas entraver leurs mouvements et encourager autant que possible toutes les pratiques sportives, autant à la maison qu'à l'école. À l'école par exemple, ou pendant les devoirs, vous pouvez permettre à votre enfant, lui proposer, lorsqu'il n'est plus capable de se concentrer, de faire un tour de la maison en courant, ou faire un peu de corde à sauter, ou pour lui redonner donc l'opportunité de redevenir disponible pour les apprentissages. On peut aussi commencer la journée de classe avant d'aller à l'école, ou certaines institutrices peuvent le proposer à des cas hyperactifs, par exemple, des exercices. Un peu de sport avant l'école. Et ce serait même sans doute un excellent moyen pour tous les élèves de profiter de cet avantage pour être plus à l'écoute et plus concentré. Voilà les conseils que je peux vous donner. À bientôt.
Merci Margot. À la prochaine fois. Donc, une courte pause musicale avec Christophe Maé, Marcel. Et juste après, nous retrouverons notre dossier.
Moi je suis comme Marcel, un éternel enfant. Je lui fais la courte échelle pour qu'il traverse le temps. Je lui dirai les quatre ailes et les droites de serpent et les chansons de Capel que je lui chante en endormant. Allez, chou gamin, vas-y, chou dans le vent. Allez, chou gamin, tu auras bien le temps. Allez, chou gamin, laisse encore un instant. Sur ma chou, ta main, c'est soulageant. Et que le vent t'emmène. Et que le temps t'apprenne. Ou que le vent te mène. Tu liras les romans de Pagnol, tu sais Marcel, tu en as déjà l'accent. Je ferai que ta vie soit belle, tu fais partie de mon clan. Tu chanteras cette ritournelle un jour peut-être à tes enfants. Allez, joue gamin, vas-y, joue dans le vent. Allez, joue gamin, tu auras bien le temps. Allez, joue gamin, laisse encore un instant. Sur ma joue, ta main, c'est soulageant. Et que le vent t'emmène. Et que le temps t'apprenne. Ou que le vent.
Des carrosses et des caravanes, parfois tu montes, parfois tu descends. La vie est un carrousel, choisis ta place dedans. Ne choisis pas la plus belle, mais celle qui te plaît vraiment.
Et que le vent t'emmène,
qui danse et tourne dans le vent.
Et que le temps t'apprenne, ou que le vent.
À votre santé, Catherine, pour le dossier. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nathalie Houtman, thérapeute en neurodéveloppement des troubles des apprentissages. Bonjour Nathalie.
Bonjour Catherine.
Alors Nathalie, si tu veux bien te présenter en quelques minutes.
Alors donc, je m'appelle Nathalie Houtman. Je suis, j'ai d'abord eu le métier d'infirmière et ensuite je suis donc diplômée pour être thérapeute en neurodéveloppement. Et voilà. Après, je sais pas si tu veux qu'on passe directement aux explications ou si ma présentation.
Donc, tu es dans la région, hein.
De... Oui, je suis. J'exerce à Privezac.
Oui.
Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est près de La Nuit-Joule, hein, entre Villefranche et Rodez.
Voilà.
Voilà. Et donc je travaille alors essentiellement avec les enfants, c'est pour ça si j'ai bien compris que je suis là aujourd'hui.
Oui, parce que voilà, l'émission tourne autour des enfants.
Et puis aussi après j'en parlerai, ça peut s'adresser aussi à l'adulte, mais c'est vrai que cette approche neurodéveloppementale, voilà, des troubles des apprentissages, elle est essentielle, elle est magnifique à exercer avec les enfants, puisque c'est là quand même que tout se joue. Et voilà. Et c'est surtout que dans les apprentissages, je vais expliquer un petit peu plus tard ce qu'on entend par apprentissage, hein, mais c'est aussi le moyen de donner aux enfants après tous les atouts physiques, psychologiques, intellectuels pour avoir une vie épanouie.
Alors, est-ce que ça s'adresse en particulier à des enfants que l'on dit en difficulté ou est-ce que c'est pour tous les enfants en général ?
Alors, j'ai envie de dire que c'est entre les deux. Mmh. Voilà. Puisque souvent, quand on dit les enfants en difficulté, on a tendance à parler, je viens de parler d'apprentissage, on a tendance à parler des apprentissages spécifiques. Les apprentissages spécifiques, c'est plus ce qui revient avec l'école, c'est-à-dire la lecture, l'écriture, la concentration, le calcul, etc. Dans les apprentissages, moi je parle de ce que l'être humain, dès qu'il naît, doit apprendre, hein, et ça inclut ben, parler, marcher, se tenir debout, avoir de la posture, de l'équilibre, d'avoir aussi le développement sensoriel, mais aussi, ça j'y tiens beaucoup parce qu'on a tendance à parler du moteur, ça en fait partie aussi, du moteur, du sensoriel, du psychologique, mais il y a aussi quelque chose dont on parle peu, et c'est le domaine des perceptions. C'est-à-dire qu'il faut aussi développer des perceptions correctes, des perceptions des temporelles, spatiales, des perceptions auditives et visuelles aussi, parce que là, voilà. Hein. Donc c'est, pour moi, c'est donc les enfants qui ont, oui, des difficultés. Donc cela, ça va pouvoir concerner les enfants qui ont déjà des diagnostics ou pas, mais de dyslexie, donc les troubles de la lecture, de dyspraxie, les troubles du mouvement, d'acquisition du mouvement, de dyscalculie, de dysorthographie. Voilà, tout ce qu'on met derrière les 10 la plupart du temps et qui parle aux gens. Mais quelquefois, il n'y a pas de diagnostic, mais les enfants présentent le même genre de difficultés. Parfois, c'est un mélange de tout. Moi, ce que je note, c'est que j'ai envie de dire qu'il y a ceux qui ont des troubles comme ça ou des difficultés qui vont être associées au scolaire. Pardon. Mais souvent, on va trouver autre chose derrière, et notamment avec un manque de tonus musculaire qui n'a rien à voir avec la force. Hein. Le tonus, c'est juste être capable d'avoir un maintien debout, assis, qui est naturel, qui est inné et qui est efficace, hein, sans lequel on ne peut pas avoir justement un bon fonctionnement visuel, auditif, une bonne cognition, c'est-à-dire la capacité aussi à apprendre, à comprendre. Voilà. Et donc, c'est assez holistique, c'est assez global. Et on va retrouver, par exemple, moi, je peux avoir des gens qui viennent me voir pour un problème de dyslexie. Et on est tellement focalisé sur la dyslexie, on ne va pas se rendre compte, quand je dis on, c'est le parent, l'école ou l'enfant.
L'entourage.
Lui-même. Voilà. Oui. On va pas forcément se rendre compte que derrière ça, ah ben oui, tiens, j'avais pas remarqué, il y a un problème d'équilibre, il y a un problème de coordination, il y a un manque de confiance en soi. Voilà. Et après, à côté de ça, et là où je trouve que cette thérapie, elle est particulièrement remarquable, c'est aussi pour les personnes qui vont pas avoir donc les difficultés scolaires, mais qui vont avoir un grand manque de confiance en eux, d'estime de soi, une extrême sensibilité, une extrême difficulté à appréhender les relations aux autres, à se sentir bien, voilà, dans leurs émotions, dans leurs sensations. Et là, je parlerai du réflexe qui est concerné, puisque mon travail est basé sur les réflexes. On a des résultats assez étonnants et assez magnifiques. Donc en fait, je peux avoir tout un panel de difficultés. Tout un panel d'âge aussi, parce que c'est les mêmes difficultés qui peuvent se retrouver ou très fortes et du coup on peut les noter très jeunes ou suffisamment fortes et ou suffisamment fortes pour avoir un diagnostic de poser, ou ensuite c'est pas suffisamment fort mais ça va être mis en exergue à ce moment-là, par exemple au moment de l'adolescence ou plus tard à l'âge adulte.
Ou plus tard si c'était latent et que...
Voilà, en fait, c'est la même chose, mais à des degrés différents, et la personne arrive à compenser, à compenser, à compenser. Sauf au moment, ça saute.
Donc, quels sont tes outils? Comment tu travailles, si tu as des exemples aussi,
Voilà, donc en fait, ma façon de travailler, donc quand les gens s'adressent à moi, il y a tout d'abord, quel que soit, encore une fois, ça va être ça pour tout le monde, quel que soit l'âge, il va y avoir un questionnaire, quelquefois des questionnaires, un premier questionnaire de dépistage. C'est-à-dire, c'est un questionnaire qui a été élaboré pour permettre de dire, est-ce qu'il y a des causes neurodéveloppementales, des troubles des apprentissages? Et à ce moment-là, je vais dire aux gens, ben oui, je peux vous accompagner avec un programme qui s'appelle un programme de stimulation-inhibition des réflexes. Je vais pouvoir vous accompagner ou pas. C'est souvent oui, mais quelquefois non. Et puis, il y a aussi parfois, et je l'utilise de plus en plus, un questionnaire de sensibilité. Parce que quand on a ces dysfonctionnements, on a souvent une hyper- ou une hyposensibilité sensoriel à différents niveaux. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, visuel, auditif, cutané, émotionnel. Mmh. Voilà. Et donc, c'est intéressant aussi. Donc, une fois qu'on a passé ça, il y a une consultation initiale qui là se fait, dans le cas des enfants, uniquement avec le ou les parents, et dans le cas de l'adulte, bien sûr, au même moment. Et donc là, on va parler de ce qui a pu se passer au moment de la grossesse, de l'accouchement, de la première année de vie, parce que c'est là où la plupart des choses se passent. On va parler que c'est là où vont se retrouver les causes.
L'origine
de ces difficultés. Mm-hmm. Alors, j'ai envie de dire, l'intérêt n'est pas vraiment de savoir pourquoi, mais ça va être des indicateurs, et on va avoir manqué justement des stades de ce développement neurophysiologique. Mm-hmm. Et donc, dans ce développement, qu'est-ce qui apparaissent? Et ce sont là mes outils, les fameux réflexes, les réflexes primitifs et les réflexes posturaux. Les réflexes primitifs doivent tous être présents à la naissance. Alors, ils émergent quelquefois in utero ou à la naissance, mais ils sont tous présents au moment de la naissance. Ce sont des réflexes souvent appelés de survie. Et ils doivent disparaître au plus tard à la fin de la première année de vie. Pendant ce temps, se mettent en place les posturaux. Comme son nom l'indique, c'est ceux qui vont nous permettre la posture, mais aussi un bon fonctionnement avec ces fameuses perceptions dont j'ai parlé tout à l'heure. Et voilà, donc ensuite, moi, je vais évaluer le statut des réflexes qui va me permettre de dire, voilà, c'est là que ça dysfonctionne.
Donc,
il y a
par exemple, les réflexes qui doivent... qui doivent être présents, enfin qui sont, voilà, va alors, dire dans la norme.
Alors normalement, on devrait, puisque les réflexes primitifs doivent avoir disparu à la fin de la première année de vie, et comme la plupart du temps, on me consulte bien au-delà de ça.
Oui.
On est d'accord que cela, je ne dois pas les retrouver.
Hein. D'accord.
Alors, ce sont par exemple le réflexe de succion qu'on connaît. J'ai parlé de ce qu'on connaît bien, hein, le réflexe de succion. Hein, si on a un réflexe de succion qui est toujours là, eh bien, alors dans le cas de tous les réflexes primitifs, s'ils sont rémanents, c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'être suffisamment stimulés, d'avoir accompli leur fonction pour qu'une capacité se développe. D'accord ? Donc, on va les retrouver. Donc là, le réflexe de succion, s'il est toujours présent, eh bien, c'est peut-être que l'enfant n'aura pas assez sucé ou convenablement exercer cette succion d'enfant qui est différente de notre succion d'adulte, et on va par exemple avoir des difficultés à s'alimenter, à déglutir ou continuer à mal parler, à mal positionner sa langue ou à saliver un petit peu de façon exagérée ou des choses comme ça. Voilà.
D'accord.
Après, on peut avoir aussi le réflexe palmaire, qu'on appelle le réflexe d'agrippement, un petit peu. Hein. Donc le bébé, quand on lui met quelque chose dans la main...
Il serre les doigts.
Il serre les doigts de façon involontaire et il n'est pas capable de relâcher de façon volontaire jusqu'à ce qu'il apprenne à le faire.
Voilà.
Si on a ce réflexe qui persiste, eh bien là, on va pouvoir avoir... des troubles de la motricité fine au niveau manuel. On peut avoir une mauvaise tenue du crayon. une hypersensibilité qui va faire qu'on n'aime pas toucher cette certaine texture, qu'on va avoir du mal, qu'on va être plus maladroit que d'autres. Hein. Voilà, qui va entraîner aussi quelquefois un lien bucco-manuel avec ses besoins de tout porter à la bouche, hein, chez le petit, voilà.
Voilà, on retrouve Nathalie Outman, thérapeute en neurodéveloppement des troubles des apprentissages, juste après une courte pause musicale avec Renaud en cloque.
Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur. Rimbaud, avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau dans la chambre du gosse. Bravo, déjà les petits anges sur le papier peint, je trouvais ça étrange. Je dis rien, elles me font marrer ces idées loufoques depuis qu'elle est en cloque. Elle se réveille la nuit, veut bouffer des fraises, elle a des envies balèzes. Moi, je suis au petit soin, je me défonce en huit pour qu'elle manque de rien. Ma petite, c'est comme si je pissais dans un violoncelle, comme si j'existais plus. Pour elle, je me retrouve planté tout seul dans mon froc depuis qu'elle est en cloque. Elle tricote en buvant de la verveine. Moi, je démêle ses pelotes de laine. Elle use les miroirs à se regarder dedans, à se trouver bizarre tout le temps. Je lui dis qu'elle est belle comme un fruit trop mûr. Elle croit que je me fous d'elle. C'est sûr, faut bien dire ce qui est. Moi aussi, je débloque depuis qu'elle est en cloque. Faut que je retire mes grolles. Je rentre dans la chambre du petit rossignol qu'elle couvre. C'est que son petit bonhomme qui arrive en décembre, elle le protège comme une louve. Même le chat pépère, elle en dit du mal sous prétexte qu'il perd ses poils. Elle veut plus le voir traîner autour du paddock depuis qu'elle est en cloque. Mes mains l'autre côté de son dos, je sens comme des coups de poing. Ça bouge, je lui dis t'es un jardin, une fleur, un ruisseau. Alors elle devient toute rouge. Parfois ce qui me désole, ce qui me fait du chagrin, quand je regarde son ventre et le mien, c'est que même si je devenais pédé comme un phoque, moi je serais jamais en cloque.
À votre santé, notre émission mensuelle autour de la santé au naturel et du bien-être, avec dans notre dossier aujourd'hui Nathalie Outman, thérapeute en neurodéveloppement des troubles des apprentissages. Alors, on en a déjà un petit peu parlé au début de notre dossier. Quel type de problème, de difficulté tu peux aider à résoudre et comment ?
Voilà, donc, comme j'ai dit un petit peu tout à l'heure, par rapport à ces difficultés de développement et ces problèmes de réflexes qui sont soit rémanents, soit dans le cas des primitifs, soit qui ne sont pas suffisamment ou pas du tout développés dans le cas des posturaux, eh bien, on va trouver tout un tas d'autres difficultés qui vont être, par exemple, la posture, hein, avec un manque de stabilité, des difficultés à marcher, à coordonner ses mouvements. Bien sûr, les problèmes scolaires dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi l'attention, la concentration, l'hypersensibilité sensorielle dont j'ai parlé aussi tout à l'heure, hein, où on peut. Ça, c'est souvent avec le réflexe de Moreau qu'on va retrouver, et on va avoir cette hypersensibilité auditive, visuelle, tactile, et aussi un manque d'estime de soi, un manque de capacité à savoir vraiment qui on est et comment sont les autres. Et puis, après, on peut avoir aussi de l'agitation, des problèmes de mémorisation, des manques de repères temps-espace, des chutes, etc. Voilà. Donc, ça, c'est toutes les difficultés qu'on peut rencontrer à plus ou moins grand degré. Et donc moi, comme je l'ai déjà expliqué un peu précédemment, après ces questionnaires, je vais faire une évaluation qui va passer par le physique. Il y a juste la première fois, on va aussi avoir des petits tests écrits hein, pour permettre de voir certaines difficultés graphiques hein, ou spatiales sur la feuille A4, par exemple. Et au-delà de ça, tout passe par le corps. Donc l'évaluation va passer par le corps en évaluant l'équilibre, la coordination encore une fois, bien sûr en évaluant le statut des réflexes, bien sûr en évaluant la latéralité aussi, enfin toutes les fonctions que nous devrions avoir acquises. Et à la fin de ça, eh bien on part du principe que les réflexes, s'ils ne sont pas développés correctement, c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de s'exercer, comme je disais un petit peu tout à l'heure pour le palmaire, de s'exercer à travers des mouvements très spécifiques. C'est-à-dire que c'est à travers des mouvements très spécifiques que les réflexes émergent, se développent et disparaissent ou se mettent en place. Et donc, moi, je vais donner, à la fin de chaque consultation, je vais donner un mouvement ou des mouvements à certains moments du programme à réaliser tous les jours à la maison de façon très spécifique. Alors, ça paraît lourd parce que c'est tous les jours, mais c'est 10 minutes à peu près. Et c'est grâce à la réalisation de ces mouvements que des capacités vont se mettre en place et que les réflexes vont se mettre en place également. La première consultation est un peu longue, elle peut durer 2 heures et au-delà. Ensuite, elle dure entre 1 heure et 1h30, ça dépend du moment du programme, ça dépend de l'individu concerné. Et on se revoit généralement toutes les 6 à 8 semaines, plus souvent toutes les 8 semaines. Le programme donc de stimulation et inhibition des réflexes prend à peu près une année. Alors ça peut être 10 mois, ça peut être 14.
Oui, c'est 12, une moyenne. Voilà,
c'est une moyenne. Et là, on retrouve un petit peu à peu ce qui manquait, ce qui n'était pas là. Et on va voir les gens changer et acquérir des choses spontanément et de façon naturelle.
Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, un cas ou plusieurs des exemples?
Alors, je vais parler, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça, j'y tiens beaucoup. Par exemple, dans le manque de confiance en soi, d'estime de soi, on peut avoir des enfants qui arrivent à la première consultation, qui ont tendance à facilement pleurer, à facilement être en colère, à toujours se diminuer. Et là, on a ce fameux réflexe de Moreau qui est en jeu. Et donc, on va commencer le programme et au fur et à mesure que surtout celui-là disparaît, eh bien, on voit l'enfant en question qui va avoir un regard plus direct, qui va se sentir bien, qui va sourire davantage, qui va prendre un petit peu ses marques, qui va savoir se positionner par rapport à lui-même, par rapport à sa famille, par rapport aux autres. Et ça, c'est juste merveilleux à observer.
Ah ben ça va lui changer la vie complètement.
Voilà. Dans d'autres cas de réflexes, j'ai parlé tout à l'heure de tonus et de posture. Eh bien, on va retrouver de la même façon des enfants qui vont être mieux en sport. Par exemple, je parlais aussi des perceptions. Quand un enfant a une dyspraxie diagnostiquée ou juste qu'il est maladroit, cet enfant qui chute beaucoup, qui renverse des choses, qui est pas à l'aise dans son corps. Eh bien, ces enfants qui font du sport. Alors, on dit, tu fais du sport? Oui, ils sont contents. Et si on gratte un petit peu, ils sont contents, mais ils sont jamais à la bonne place sur le terrain de foot. Ils sont pas capables, par exemple, de suivre les instructions au judo. Ils sont obligés de regarder sur les petits camarades. Et là, c'est la même chose. Les choses se mettent en place et les parents disent, ou l'enfant dit, eh ben, maintenant, il a fait des progrès au judo. Ou il a fait du progrès au piano. Ou s'il y a un suivi orthophonique, l'orthophoniste a dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà. Et les choses se règlent spontanément sans les travailler particulièrement.
Voilà, juste avec des exercices de rééducation en quelque sorte.
C'est pas de la rééducation du tout, c'est juste, on va redonner. En fait, c'est comme si l'individu en question avait été bloqué à un stade du développement et que ses réflexes n'avaient pas, comme j'ai dit tout à l'heure, fait les mouvements qu'il fallait. Donc avec ces mouvements, eh ben les réflexes vont se mettre en place
naturellement.
Et les choses vont se mettre en place naturellement. C'est-à-dire que la posture va être spontanée, le langage va être spontané, l'écriture va être spontanée, les choses se mettent en place sans qu'on travaille le trouble.
Voilà, et ça, c'est intéressant.
Oui. Et c'est définitif.
Voilà.
Voilà.
Mais oui, quand on va à la cause du problème, c'est comme en naturopathie, on va à la cause.
Exactement.
Du souci, de la pathologie, et on règle les choses.
Voilà.
Eh bien, Nathalie, merci beaucoup. Donc, je laisserai en podcast sur le site de l'émission toutes les coordonnées de Nathalie. Nathalie Outman, thérapeute en neurodéveloppement des troubles des apprentissages, ou tout simplement nathalieoutman.com. Donc, que vous ayez un enfant en difficulté ou que vous-même vous soyez en difficulté, n'hésitez pas à aller visiter le site de Nathalie, ou même à l'appeler, à lui demander des informations. C'est un travail formidable qu'elle fait. Voilà, au revoir Nathalie.
Au revoir Catherine.
Tout de suite, Francis Cabrel, il faudra leur dire.
Thank you.
Si vous nous rejoignez, Catherine, dans À votre santé, une parenthèse pour se faire du bien, avec Marine qui va nous raconter une histoire aujourd'hui autour du maïs. Bonjour Marine.
Il y a bien longtemps, les tribus indiennes entrèrent en guerre les unes contre les autres. Il devint très difficile de circuler car chacun soupçonnait les voyageurs d'être des espions des tribus adverses. Pourtant, une pauvre vieille et son petit-fils allaient de campement en campement, cherchant une tribu qui voudrait bien les accueillir, car ils n'avaient plus de famille. Mais partout, ils étaient repoussés. Un jour, ils arrivèrent enfin chez des Indiens qui les invitèrent à s'asseoir près du feu et à manger avec eux. Le chef de la tribu dit à la vieille femme : « Vous pouvez rester avec nous si vous ne craignez pas la faim, car il n'y a pas beaucoup de gibier sur nos terres, mais le peu de nourriture que nous avons, nous serons heureux de le partager avec vous. » « Nous n'avons pas besoin de grand-chose, répondit la grand-mère, et je travaillerai pour vous, je m'occuperai des enfants pendant que les parents iront chercher à manger. » Le lendemain, comme d'habitude, les hommes partirent à la chasse, les femmes s'en allèrent cueillir des fruits, des plantes et chercher de l'eau. Les enfants restèrent seuls. Quelle chance ils avaient de pouvoir jouer toute la journée sans être embêtés par des grandes personnes. Oui, mais ils n'avaient rien à manger. Les parents ne rentraient de la chasse ou de la cueillette que le soir, et leurs petits estomacs trouvaient la journée bien longue. Ce jour-là donc, les enfants jouèrent longtemps. Puis quand ils commencèrent à être fatigués, la vieille femme les appela. Ils s'approchèrent d'elle, très étonnés. « Mais qu'est-ce que tu fais, grand-mère ? » demanda l'un d'eux. « Je vous prépare de la bouillie de maïs, » répondit-elle en remuant une épaisse purée dans une grande marmite. Les enfants n'en avaient jamais vu, mais dès qu'ils eurent goûté, ils en redemandèrent. Quand ils furent tous rassasiés, ils s'assirent autour de la vieille comme des poussins blottis près de leur maman poule, et ils se mirent à leur raconter de merveilleuses histoires. Et désormais, ce fut pareil tous les jours. Grâce au maïs de la vieille femme, les enfants ne connaissaient plus la faim, et en plus ils apprenaient toutes sortes de contes. Les mois passèrent, et de jour en jour, la vieille femme paraissait plus fatiguée. Pourtant, elle préparait comme d'habitude le repas des enfants. Un jour, elle n'eut pas la force de se lever. Mais à midi, son petit-fils trouva près d'elle la marmite pleine de bouillie. Elle lui dit « J'ai semé du maïs et il a bien poussé. Mais il doit encore être arrosé et sarclé. Il faudra que tu t'en occupes avec les autres enfants. » Ce furent les dernières paroles. Mais elle continua à donner la bouillie jusqu'à ce que les épis soient mûrs. Ce jour-là, quand son petit-fils entra dans la tente, il ne la trouva pas. Personne ne la revit jamais. La vieille femme s'était changée en maïs. Aujourd'hui encore, si vous regardez un épi enveloppé de ses feuilles, vous verrez des fils d'argent. Ce sont les cheveux de la bonne vieille qui a apporté le maïs pour que les petits Indiens ne souffrent plus de la faim.
Merci Marine, une très belle histoire. Une pause musicale tout de suite avec John Lennon, Beautiful Boy.
Beautiful, 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 beautiful boy. busy making other plans.
Donc si vous nous rejoignez à votre santé, notre émission de bien-être au naturel, la chronique de Clément aujourd'hui, une
Bonjour.
Pierre sur le chemin. Bonjour Clément. Alors tu nous présentes quelle pierre aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui ce sera la fluorine, donc une pierre très colorée, enfin avec beaucoup de couleurs. Donc l'origine du mot vient du latin fluere, qui signifie s'écouler. Chez les Grecs, elle symbolisait l'intelligence et le savoir-faire. Donc c'est une pierre qui est très utile lorsqu'une action doit être accomplie ou lorsqu'agir avec objectivité et impartialité est requis. Elle communique un esprit d'analyse profond ainsi qu'une excellente concentration. La fluorine équilibre le mental et le clarifie, procurant ainsi un effet stabilisant sur le plan émotionnel. Cette pierre diminue le stress et fortifie la mémoire. Elle stimule le goût d'apprendre.
Donc pour les enfants, voilà. c'est intéressant.
Voilà, ça permet également de les responsabiliser.
Mmh.
Voilà, parce que ça augmente, ça développe la faculté de décision. Et donc, voilà, ça leur permet de comprendre que chaque action que l'on fait a une conséquence. Voilà, c'est un peu un esprit cartésien, mais voilà.
D'accord.
Deux conséquences, et donc ils comprennent, ça responsabilise l'enfant. Voilà, donc après, c'est une pierre qui se décline sous vraiment beaucoup de couleurs, voilà, dû aux impuretés, comme j'avais expliqué une dernière fois. Voilà, dû aux impuretés. Et donc, il y en a des variétés jaunes qui, elles, favorisent la créativité et la coopération.
Très bien.
Voilà, il y en a d'autres qui sont plutôt bleues. Elles, par contre, c'est le bleu, donc ça va vraiment être la pensée créative et la communication, mais très poussée.
D'accord, c'est pointu, là.
Voilà. Mmh. Après, il y a la fluorine rose, qui attire le romantisme et l'amour et la tendresse.
Mmh.
Et la fluorine mauve, qui, elle, agit plus sur la spiritualité, sur les rêves prémonitoires.
Très bien. Donc, une jolie pierre, de jolies pierres pour les enfants.
Voilà. Il en existe également des variétés arc-en-ciel.
Wow.
Donc, qui cumulent les spécificités des différentes couleurs que j'ai citées précédemment.
Très bien. Eh bien, merci Clément. Bonne journée.
Bonne journée.
Et tout de suite, une pause musicale avec Radiohead, Sail to the Moon.
Thank you. cross of the moon, I spoke too soon, and how did it come? I was dropped from.
Catherine, dans notre émission mensuelle, chaque troisième samedi du mois, une émission tout autour de la santé et du bien-être au naturel. Donc cette émission aujourd'hui, vous l'avez deviné, était autour des enfants. Donc dans la rubrique trucs et astuces, j'aimerais vous parler de quelques huiles essentielles pour les enfants. Alors, la lavande aspic, lavandula atifolia spica, je précise, hein, parce que chaque huile essentielle est bien spécifique. Donc la lavande aspic, pour les piqûres d'insectes, elle soulage très rapidement la douleur. Donc pour les enfants, c'est parfait. Nous avons aussi la camomille romaine, Camaelemelum rosae odora. Donc c'est une huile essentielle que l'on va donner à respirer. En général, une fois suffit pour réduire l'agitation et le stress chez des enfants. Elle favorise également le sommeil. Alors vous connaissez peut-être aussi Ravinsara, hein, Cinnamomum camphora, pardon. Donc le Ravinsara qui va prévenir de toutes les maladies ORL et qui stimule aussi le système immunitaire. Donc pour les enfants, très très intéressant. Et puis la vanille. Hein, donc l'essence de vanille qui calme, qui rassure, qui rappelle la maman, hein, pour les enfants. Bon, ça marche aussi pour les grands. Voilà, c'est le moment de nous quitter. C'était À votre santé, notre émission mensuelle entièrement consacrée à la santé et au bien-être naturel. Chaque samedi, chaque troisième samedi du mois, de 10h à 11h, et puis en rediffusion le dimanche à 11h. Voilà, restez à l'écoute de CFM, mais surtout restez à l'écoute de vous-même. À très bientôt. Ciao. Thank you.